Oui, bonjour, donc je suis Frédéric Jésus. Sur le programme, j'ai été présenté comme pédopsychiatre. C'est une de mes activités, d'ailleurs interrompue depuis 2 ans et demi maintenant. Pédopsychiatre de service public, j'ai essentiellement travaillé dans les quartiers populaires, comme on dit, ou en grande couronne d'Île-de-France. En faisant des allers-retours entre cette pratique et puis des fonctions de chargé de mission pour des ministères, pour des départements et pour une grande ville. Par ailleurs, je suis... maintenant, j'ai des activités de consultant, essentiellement d'ailleurs dans le domaine des politiques éducatives locales, où je ne cesse de découvrir des acteurs motivés et motivants. Et puis, j'ai une grosse activité associative qui nourrit une partie du propos que je tiendrai tout à l'heure, en tant que, d'une part, depuis 20 ans, vice-président d'une association nationale de promotion de la Convention internationale des droits de l'enfant, d'une part, et d'autre part, dans le domaine de l'éducation populaire, en tant que cofondateur et coprésident d'un centre social et culturel dans le 19e arrondissement de Paris.
Et comme tu es trop modeste, je vais insister... Tu viens d'être l'auteur successivement de 2 livres sur le sujet que tu évoqueras dans ton propos.
Mon propos va être un peu différent de celui d'Anouk Flamand. À la fois moins concret et plus politique, peut-être. Je vais peut-être aller plus large, c'est-à-dire en effet, je vais... déborder la question de la relation parent-école et plus loin, c'est-à-dire que je vais être plus dans la prospective que dans l'analyse descriptive et critique que vous avez faite et qui, moi, pour l'essentiel, me convient. Et je crois que dans les ateliers de ce matin, notamment celui sur la place des parents, on retrouvera beaucoup des points que vous avez mis en exergue. Mais je me suis aussi... placé dans le titre de ces 2 journées où il est question de défi des politiques éducatives de territoire. Donc j'essayais de voir comment cette question de l'empowerment, par exemple, pouvait être relevée comme un défi, et comme un défi productif et mobilisateur. Alors, je reviens aux projets éducatifs locaux ou de territoire, qui sont des cadres visibles, évolutif, potentiellement démocratique, pour la mise en œuvre concrète d'une volonté politique de coéducation, et qui donc mobilise à cet effet un nombre variable d'acteurs qui sont ceux que l'on rencontre à l'échelle d'un territoire, communal, intercommunal, parfois départemental, pour décrire, accompagner, coordonner les différents espaces-temps qui sont ceux qui structurent l'éducation et le parcours éducatif des enfants, et potentiellement de 0 à 18 ans, d'ailleurs. Pour autant, donc ce lien est fort entre PEDT, PEL et coéducation. Pour autant, il me semble important de ne pas considérer les PEDT comme des dispositifs, un dispositif de plus. La tentation pourtant serait forte, et de le confier à la gestion administrative ou à celle des experts, ou de leur capacité à faire ensemble des politiques publiques sans trop s'ouvrir à la population auquel elles s'appliquent. Il me semble important de ne pas confondre la coéducation comme un objectif, comme une visée, mais bien plutôt comme un processus et une démarche. Par exemple, pour démonter un peu les choses et les concepts avant qu'ils ne soient saisis de travers, il me semble important de ne pas réduire la coéducation à la question des relations parents-école, même si c'est aujourd'hui une tendance à laquelle le ministère de l'Éducation nationale nous incite. Que le ministère parle de coéducation, en soi, c'est une très bonne nouvelle, c'est nouveau. Mais immédiatement, c'est pour la confiner dans une conception de... cette coéducation qui, en plus, serait surtout centrée sur les relations entre les seules écoles primaires, préélémentaires et élémentaires, et puis les parents en difficulté ou dont les enfants sont en difficulté, enfin, ceux qu'on on désigne maintenant sous cette formule toute consacrée et très ambiguë de parents éloignés de l'école. Alors, la coéducation, ça peut être ça, oui, bien sûr, il faut aussi consacrer, mais l'idée, ce serait de voir dans quelle dynamique éducative plus globale et plus locale cette préoccupation peut s'inscrire. De même, une coéducation qui serait présentée aux enfants comme une sorte de coalition d'adultes en situation éducative et qui se constituerait surtout lorsqu'ils sont en passe et en proie à des difficultés d'apprentissage ou de comportement scolaire serait une coéducation bien peu amicale et bien peu bienveillante à l'égard des enfants. Et on sait déjà que certaines évaluations de programmes de réussite éducative mettent en évidence que les enfants vivent assez mal cette impression d'être stigmatisés par... alors, c'est pas conçu comme une coalition d'adultes, mais à leurs yeux, parfois, ça finit par fonctionner comme tel, avec des injonctions, avec des programmes, une entrée au chausse-pied de multiples activités dans leur emploi du temps. Donc... si on part dans ce type de direction, on va avoir du mal à être sur une logique d'empowerment. Il me semble, en revanche, donc important d'insister sur le fait que la coéducation, c'est d'abord un processus, une démarche mobilisatrice, pas spontanée, c'est-à-dire qui relève d'une éthique, d'une méthodologie dont on doit prendre soin. Et par ailleurs, une démarche qui, me semble-t-il, aujourd'hui, s'inscrit dans un contexte caractérisé par quatre phénomènes. Le premier, le dire ici, c'est une évidence, mais c'est celui, le premier élément de contexte, c'est celui de la territorialisation accrue de plusieurs composantes des politiques éducatives. Alors, je ne vais pas revenir sur ce point, mais Éric Favet y a insisté, hein, avec l'entrée par la réforme des rythmes éducatifs et scolaires, c'est non seulement un débat public formidable qui s'est manifesté, avec des temps conflictuels extrêmement productifs, mais c'est aussi la prise de conscience d'un certain nombre de choses, en particulier du fait qu'il y avait en proximité un rôle important des élus et des choix politiques qui sont faits pour agir sur un certain nombre de conditions de l'éducation des enfants, et notamment pour agir ou non sur la réduction des inégalités, en particulier devant les temps libres éducatifs. Et le repérage de ce rôle politique et de l'importance de ces temps-là a mis en évidence l'importance des acteurs qui y contribuent, que ce soit des acteurs municipaux ou des acteurs associatifs liés structurellement et financièrement aux municipalités. Mais ça a aussi permis une ouverture, ce que j'appelle une triangulation des relations éducatives. C'est-à-dire que justement, le pôle, on va dire, local, municipal ou intercommunal, est un sommet d'un triangle où, désormais, une dialectique, des jeux d'alliance permanents peuvent se jouer. Et les parents et écoles ne sont plus condamnés à être dans un face-à-face ambigu, qui parfois d'ailleurs tourne au dos à dos, plus qu'au face-à-face. Et en permanence, il y a un tiers qui est là et qui rend plus intéressant et plus complexe les jeux d'acteurs. Et pour l'enfant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième élément de contexte, le renouveau de l'éducation populaire, justement, à ce moment précis, avec, en effet, des perspectives de développement du pouvoir d'agir des habitants, ce qu'on appelle l'empowerment aussi, notamment depuis le rapport remis au ministère de la Ville, Passons-nous. Et puis, une conception de l'empowerment qui mérite, en effet, aujourd'hui, même si elle est portée par l'éducation populaire, d'être ouverte au-delà des seuls habitants, aux différents professionnels en contact avec eux. Et ça nous concerne beaucoup. On peut être à la fois fonctionnaire territorial et concerné par une logique d'empowerment. Ben, à quelles conditions, à quel prix, comment les employeurs vont-ils percevoir cette affaire-là? Et puis, une sur le, politiquement, c'est une approche de la mobilisation des habitants et des professionnels et des associations constitue une sorte d'antidote aux logiques de repli individualiste, consumériste, communautariste, qui caractérise parfois la relation des habitants avec les services publics. Troisième élément de contexte, des évolutions juridiques considérables, bien que méconnues et souvent passées sous silence ou scotomisées sur le statut de l'enfant. On y reviendra dans un atelier tout à l'heure, animé par Cécile Ponceau. Mais en deux mots, c'est passé peut-être inaperçu, mais la France a ratifié en 1990 la Convention des droits de l'enfant, dont l'article 12 dit que les enfants ont droit à voir leur opinion recueillie et prise en considération pour toute décision qui les concerne, selon leur âge et leur degré de discernement. Cet article-là n'a pas été franchement, clairement, ouvertement transposé dans tout le droit interne français, notamment dans le fonctionnement des institutions, notamment éducatives. En revanche, il était transposé pratiquement mot pour mot dans le Code civil. Et lorsque l'article 371.1 du Code civil qui définit l'autorité parentale a été réécrit en 2002, c'est pour signaler notamment que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de discernement. Donc, dans l'institution familiale, même si les parents n'ont pas toujours conscience, l'enfant est en situation de co-décider. Ce qui ne veut pas dire d'imposer, mais de participer au processus de décision. Donc, on voit bien que si on mène ce raisonnement au-delà des familles, dans les institutions éducatives qui peu ou peu commencent à s'ouvrir, malgré tout, à cette façon de considérer l'enfant au-delà de la personne de l'élève ou du consommateur de services associatifs ou paramunicipal, ou municipal, eh bien, l'enfant associé aux décisions qui le concernent, il se pourrait que ça résonne un petit peu aux oreilles des acteurs des PEDT. On verra bien à quel point et à quel rythme. Et puis, dernier élément de contexte, qui déborde les questions éducatives, mais quand même, ce que l'on observe actuellement, à savoir une véritable crise de désenchantement, de dénigrement, de contournement de la démocratie, on pourrait même dire aujourd'hui de trumpisation de la démocratie, tout du moins de la démocratie représentative, qui rend certainement plus urgente que jamais l'instauration ou la restauration d'un dialogue entre la base et le sommet des structures sociales, entre ce qu'on pourrait appeler les petites gens et ce qu'on pourrait appeler les belles personnes, le peuple et les élites, comme beaucoup le disent aujourd'hui, et en tout cas, un contexte qui fait qu'il ne serait pas inintéressant de s'intéresser non seulement à développer chez les enfants l'apprentissage des valeurs et de la citoyenneté démocratique, mais aussi et tout simplement, si je peux dire, leur pratique. Leur pratique dans les écoles, leur pratique dans les centres de loisirs, et donc dans les familles et en lien avec elles. Alors, c'est pour toutes ces raisons que dès 2004, j'avais commencé à m'intéresser à la question de la coéducation, mais en la reliant, c'était le sous-titre d'un bouquin que j'avais écrit à l'époque, coéduquer pour un développement social durable, en la reliant avec les perspectives territoriales de première intention. Et puis plus tard, l'année dernière, en 2015, avec Jean Le Gall, qui est un militant historique de la pédagogie Freinet, nous avons rédigé un gros bouquin qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, « Démocratiser les relations éducatives », en sous-titre « La participation des enfants et des parents » aux décisions familiales et collectives, et qui insiste sur des évolutions qui, notamment, devraient intéresser les acteurs des PEDT. D'ailleurs, un chapitre est consacré à cette question. Et plus récemment, après avoir vu ça sur le plan des principes, j'ai eu l'occasion, à la demande d'un éditeur, de faire un petit bouquin qui s'appelle « Agir pour la réussite de tous les enfants ». Moi, je voulais qu'il s'appelle « Agir ensemble pour la réussite de tous les enfants ». Et qui a consisté à aller rencontrer sur 11 sites différents en France des acteurs diversifiés qui réussissent à agir ensemble pour la réussite des enfants. Avec, au-delà de la mise en abîme du concept de réussite, une interrogation sur ce qu'elle veut vraiment signifier, sur ce qu'elle indique. Mais dans tous les cas de figure, disons, ma démarche depuis 12 ans est d'être au service de quelque chose qu'en termes savants, on pourrait appeler l'ingénierie émergente de l'agir ensemble collectif dans le champ de l'éducation. Et moi, j'ai la profonde conviction que c'est une ingénierie et que tout ça ne s'improvise pas. Ça demande de la rigueur, de la méthode, mais aussi de la conviction et des capacités d'entraînement. Donc, ce que j'essaye de repérer, mais en même temps d'accompagner et d'encourager, parce que moi, je ne suis pas dans une position de chercheur, j'ai toujours été un peu dans une position d'acteur, et puis aussi de quelqu'un qui passe un temps important à écouter ce que disent les enfants, les parents, les professionnels en contact avec eux, et puis de temps en temps aller dans les beaux bureaux, là où on prend des décisions, où on les évalue, et puis essayer de faire entendre ce que j'ai entendu. Mais aussi comprendre les enjeux des décisions politiques et en tenir compte lorsque je suis en contact avec des familles et des professionnels pour être en mesure, par un réalisme militant, d'inscrire les actions dans la durée, et voire même au-delà des territoires où elles s'appliquent. Donc, cette façon de faire, moi, me semble possible parce que je vois un certain nombre de tendances encourageantes au-delà de ce qu'on peut parfois considérer comme une sorte de désespoir social qui engluerait les perspectives et les espoirs éducatifs dans les familles populaires et dans les quartiers dits défavorisés. Mais j'ai bien entendu avec Éric Favé hier que la question de la faveur était un mot d'ancien régime, mais en tout cas des régions où le droit a du mal à venir s'appliquer. Je vois quand même des tendances favorables dans le fait que dans la vie privée des familles, on prend de plus en plus en considération le point de vue des enfants, parfois de façon excessive ou maladroite, mais ça bouge. Je vois que les volontés nationales, les volontés politiques nationales et locales, peu à peu intègrent l'intérêt et la possibilité d'une approche coéducative. Là aussi, c'est parfois maladroit, mais en tout cas, les projets de réussite éducative, les projets éducatifs locaux, le projet éducatif de territoire, et j'en passe et quelques autres. Hein. Après, on pourrait décliner aussi comment s'organise la question de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles, voire même dans les centres de loisirs, et on verrait qu'à chaque fois, ça repose sur une approche coéducative. Et voilà, ça prend place peu à peu dans les façons de faire et de décider. La formation et la motivation des acteurs professionnels et associatifs permet de plus en plus d'aborder la question du partage du pouvoir de propositions et de décisions, tout du moins dans le champ éducatif. Voilà, donc il y a des tendances encourageantes. Et puis, il y a donc des enjeux démocratiques de coéducation qui se concrétisent avec ce qu'on observe à propos de la quasi-généralisation des projets éducatifs de territoire, de leur élaboration, de leur déploiement, au moment où on aborde la deuxième génération de ces organisations-là. Et je le disais tout à l'heure, c'est un cadre prometteur, c'est un cadre qui investit le local avec une vision du global en matière d'éducation. Hein, donc encore une fois, ça pourrait concerner tous les enfants de 0 à 18 ans, et ça pourrait s'intéresser à tous leurs espaces-temps, tous leurs espaces-temps, du matin au soir, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, de septembre à septembre, si on veut être scolaro-centré, et de 0 à 18 ans. Donc, mais aujourd'hui, justement, que nous abordons la deuxième génération des PEDT, je crois que, et là je rejoins la critique d'Anouk Flamand, je crois qu'il faut se départir d'une interpellation des différents acteurs du PEDT, hein, de leur élaboration, de leur mise en œuvre, de leur évaluation, d'une interpellation qui se ferait sur le registre de la participation, de l'appel à la participation, parce que celle-ci, on le sait, est souvent ambiguë, c'est souvent une sorte de prescription, d'injonction, qui la rend d'ailleurs assez contre-productive, hein, parce qu'après, on est déçu que les gens ne participent pas là où on voudrait qu'ils participent, alors on finit par leur en vouloir, et voilà, ça part de travers assez vite. Mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est donc pas la participation, c'est plutôt l'appropriation. Tout l'enjeu de l'empowerment, c'est que les acteurs, et notamment les familles, les parents, les enfants, les jeunes, les associations à leur côté, et les professionnels qu'ils rencontrent au quotidien, se situent dans cette démarche, non pas pour y participer, mais pour la faire leur. Ne pas la laisser entre les mains, pourtant nécessaires aussi, de quelques experts académiques ou institutionnels. Par exemple, quand on parle de diagnostic, j'ai horreur de ce terme-là, diagnostic partagé sur un territoire, bon, on pourrait parler d'état des lieux, ce ne serait pas plus mal, ça permettrait d'éviter de considérer que le territoire est malade et qu'on va le soigner. Le PEDT n'est pas un remède, c'est un signe de santé, on va dire, d'un territoire. Le diagnostic, il ne s'agit pas que, si on veut l'appeler comme tel, il ne s'agit pas que les différents acteurs, et notamment les familles, y contribuent en amenant comme ça des éléments, et puis après, en repartant et en laissant les experts traiter les éléments qu'ils ont apportés. Non, à partir du moment où on amène des éléments de connaissance sur qui sont les familles sur un territoire, dans quelles conditions elles contribuent à l'éducation des enfants, etc., à quelles limites, eh bien ce savoir leur appartient. Et ce qu'on va faire de ce savoir-là, en le mettant en commun, en le croisant avec d'autres savoirs produits par les institutions et les associations, eh bien, elles doivent pouvoir continuer à s'en mêler. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, ce que je suis en train de dire. Parce que, après, comment on fait en pratique à 9h du soir, quand il pleut dehors et qu'on ne sait pas qui va ranger les chaises dans la salle après la réunion. Mais quand même, c'est une question de posture, de façon de regarder les gens en leur disant, oui, vous n'êtes pas extérieur à la question dont on parle, vous en êtes, non pas uniquement d'ailleurs les destinataires, vous en êtes les propriétaires. Alors, voilà, je vais peut-être terminer là-dessus, parce qu'en disant que, du point de vue de l'empowerment, tel qu'en tout cas, on le vit, alors moi, là, je remets juste un instant ma casquette de militant des centres sociaux, le congrès national de la Fédération des centres sociaux à Lyon en 2013, Yves et les Lyonnais présents dans la salle s'en souviennent peut-être, était précisément basé sur le développement du pouvoir d'agir des habitants. Et l'enjeu, c'est le pouvoir d'agir ensemble, on est d'accord, et non pas de s'activer chacun dans son coin. Agir ensemble. Et ce que, en tout cas dans la culture des centres sociaux, que je trouve assez appropriée, assez pertinente pour aborder la question du PEDT, une petite parenthèse, dans une ville comme Poitiers, que je suis allé examiner de près, dont je parle beaucoup dans ce petit bouquin, la ville a décidé de confier la concertation éducative de proximité aux centres sociaux ou maisons de quartier, qui sont toutes associatives, hein, pas municipales. 9 quartiers, 9 maisons de quartier, 9 concertations éducatives de territoire, animées par les centres sociaux et culturels de ces quartiers, qui permettent de rencontrer le plus grand nombre d'acteurs pour élaborer les éléments constitutifs, quartier par quartier, d'un projet éducatif de la ville entière, qui aura la cohérence d'un projet de ville, mais qui se sera nourri dans un aller-retour permanent avec les forces vives, comme on dit, de chaque quartier. Donc cette démarche-là, elle est intéressante, elle est certainement pertinente, et donc elle suppose 4 phases. Donc je ne vais pas manger tout le temps et trop détailler, mais les quatre phases que, en tout cas dans le mouvement des centres sociaux, on trouve pertinentes. Un, identifier tous les acteurs concernés par une question, sans inhibition, identifier leur diversité, leurs enjeux, leurs cadres, leurs conditions de vie et d'action. Et par exemple, ça veut dire s'adresser, dans ce cas-là, à tous les parents d'un territoire et pas uniquement aux parents d'élèves, comme on dit. Deuxièmement, susciter, encourager leurs implications, non seulement dans la définition et l'analyse d'un problème à résoudre, mais dans le dégagement des éléments de solutions tangibles. On n'est pas uniquement mobilisé par le problème, on est tout de suite mobilisé par la façon de le résoudre. Ce qui amène à se positionner différemment sur le territoire, c'est-à-dire qu'on est tout de suite une ressource de réponse à la question qu'on pose. Troisièmement, conduire dès que possible et les programmer des interventions concrètes, contextualisées, visibles, peut-être modestes, mais efficaces ici et maintenant, qui montrent qu'il est possible d'agir efficacement sur son environnement. Et en écho à ce qu'on disait hier dans un des ateliers, vraisemblablement, dès ce moment-là, engager l'évaluation de ce qui est en train de se produire, évaluation moins de résultats et d'impact que de processus. Comment on fait bouger les choses, comment l'intervention est efficace, à quelles conditions, et au fur et à mesure, dégager du savoir pragmatique sur ça. Parce que la quatrième étape, elle est permanente, en fait, elle relie toutes les autres, elle a à voir avec le processus même, d'ailleurs, d'éducation ou d'éducation populaire. C'est au fur et à mesure, mettre en lumière pourquoi et comment l'ensemble de cette démarche rend chaque acteur plus conscient de ce qu'il est et de ce qu'il fait, et aussi comment cela contribue à l'émancipation citoyenne de tous sur le territoire. Voilà, alors tout ça peut sembler complètement angélique, ou une vision, je sais pas, vous me direz, hein, peut-être que je plane complètement. J'ai pas voulu faire mon topo habituel sur la relation coéducative, etc. J'ai vraiment essayé de voir ce que c'était qu'un défi dans ces journées du Pollock. Je voudrais juste dire que si cette démarche fonctionne, si elle permet en effet de repérer que l'éducation, et notamment la coéducation, est une occasion formidable de régénérer une démarche de démocratie ascendante, authentiquement participative, et plutôt que de s'installer dans une démarche de démocratie descendante et prescriptive, ce à quoi pourrait ressembler d'ailleurs le PEDT conçu comme dispositif, hein, avec la loi qui en parle, des décrets qui cadrent sa mise en œuvre, et puis on applique sur le territoire. Si on veut vraiment se saisir politiquement de ces démarches de PEDT pour contribuer à régénérer la démocratie ascendante, locale, participative, encore faut-il ne pas oublier, et c'est là où je pense qu'on va rejoindre le fond de votre réserve aussi, hein, que tout ça n'est possible que si simultanément il existe, se manifeste, s'applique, se maintient une volonté politique de veiller à ce que l'égalité, non pas des chances, mais des droits des uns et des autres en matière d'éducation, soit véritablement garantie au niveau national, au niveau européen, voire même peut-être au-delà encore, à travers les infrastructures, les superstructures sociales, économiques et juridiques. Car sinon, tout ce que je viens de dire ne serait que du baratin pour endormir les esprits et faire semblant qu'on peut vraiment agir ensemble en matière éducative.
Merci beaucoup, Frédéric. Vous avez respecté les 10 minutes finales avec parfaitement. On voit bien qu'aller vers cette démocratie non prescrite, hein, que vous avez évoqué tous les deux dans vos interventions, cette question de la prescription que peuvent avoir vers laquelle peuvent aller les institutionnels, cette logique d'appropriation des démarches, des projets, des politiques publiques, au-delà même de la participation, hein, qui est souvent la façon ou la place qu'on va offrir aux habitants, aux parents, ou on y revient, aux enfants, aux jeunes, et plus largement, on l'a évoqué aussi, aux professionnels dans nos organisations, que, comme l'évoquait donc cette question de démocratie non prescrite, d'appropriation, interroge le rapport au pouvoir, notre propre rapport au pouvoir, en tant qu'institutionnel, en tant qu'acteur associatif, en tant qu'acteur tout court sur un territoire. Ça amène aussi à interroger nos postures professionnelles, c'est ce que vous venez d'évoquer dans votre exposé.